Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Rencontre RDC Jamaïque, c'est tout à l'heure à 22h de Kinshasa. Les Congolais ne jurent que sur la victoire de leur 11 nationale pour enfin revenir à la Coupe du Monde 52 ans après. Dans ce journal, les encouragements du chef de l'État, le message du sélectionneur et des quelques joueurs. Aussi, l'ambiance ce midi dans une fan zone de Kinshasa. Nous serons dans Kivu. Des combats opposent depuis deux jours l'AFC 123 du groupe armé Wazalendo qui vient de s'installer dans des localités abandonnées récemment par ces rebelles au sud de Lubero. Selon des sources sur place, l'AFC 123 aurait d'ailleurs stoppé son retrait et tenté de récupérer certains villages. Notre invitée Madondoa, actrice sociopolitique, elle encourage le gouvernement par l'intermédiaire du ministère du genre à mettre en place des programmes favorisant l'indépendance économique des femmes, notamment à travers l'entrepreneuriat et l'accès au crédit. Madame, Monsieur, bonjour. À quelques heures du barrage intercontinental qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 prévu aujourd'hui, le 31 mars à 22h, heure de Kinshasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé hier lundi dans la soirée un message d'encouragement aux léopards de la RDC, un appel à la discipline, à la solidarité, à l'engagement, alors que toute une nation retient son souffle. Dans son message, le chef de l'État a tenu à exprimer au nom du peuple congolais en son nom propre un message de confiance et de fierté en vers les joueurs. À quelques heures d'un rendez-vous crucial face à la Jamaïque, il rappelle l'importance symbolique de cette rencontre. Nous faisons le point avec vous, Alain Irung.
Le président a exhorté les joueurs à faire preuve de discipline, de solidarité et de maîtrise, tout en y ajoutant ce supplément d'âme qui caractérise les grandes équipes dans les moments décisifs. Il a également invité les léopards à s'inspirer des grandes figures du football congolais qui ont marqué l'histoire et contribué à la renommée du pays sur la scène internationale. S'adressant directement aux joueurs, le chef de l'État a souligné qu'ils sont les héritiers d'une histoire glorieuse, désormais appelés à écrire la leur. Chaque action sur le terrain, chaque duel, chaque minute du match portera une dimension nationale. Au-delà du sport, pour le chef de l'État, cette rencontre est un moment de représentation de la dignité, de la fierté et des ambitions d'un peuple tout entier. Dans son message, le président Félix Tshisekedi a rappelé que derrière les léopards se tient tout un peuple. Des enfants qui rêvent à travers leurs performances, une jeunesse en quête des repères et d'espoir, ainsi que des compatriotes éprouvés, notamment dans l'est du pays, qui trouveront dans ce match une source de réconfort et de rassemblement. Le chef de l'État a conclu son message en appelant les léopards à jouer avec honneur, avec le cœur et avec foi, avant d'adresser ses vœux de victoire et de bénédiction à l'ensemble du peuple congolais.
Fimbo Chicote, même logique du côté du sélectionneur des Léopards. Sébastien Desabre estime aussi que la qualification des Léopards représente l'espoir de toute une nation. On l'écoute au micro de Vanessa Kongolo.
Ce que ça signifie pour nous, c'est l'espoir de tout, comme vous l'avez dit, du pays, de toute cette génération de Congolais qui n'ont pas eu la chance de voir leur équipe dans une Coupe du Monde. Ça représente aussi le travail qu'on a initié depuis 3 ans maintenant, puisqu'on a commencé nos qualifications en 2023, des longues qualifications. On est face à la dernière marche, qui est souvent la plus difficile. En tout cas, tout le monde est conscient que le match, on le jouera d'abord pour l'ensemble du pays et tous ceux qui nous ont soutenus.
Et par rapport à ce match, Léopard aussi reste confiant. On écoute tour à tour Johan Wissa, qui était absent depuis 6 mois dans la tanière à cause d'une blessure. Samuel Mutusami se dit très concentré et Cédric Bakambu qui a disputé les éliminatoires 2018, 2022 et aujourd'hui 2026 n'a qu'un souhait, celui de ramener la RDC à la Coupe du Monde. Suivez leurs propos recueillis par Vanessa Kongolo.
Je me sens bien parce que je vais retrouver la forme. Voilà, je fais confiance à mon corps maintenant. Retrouver aussi les gars parce qu'après six mois d'absence, là, on est à un pas de faire quelque chose qu'on n'imagine pas. Donc, forcément, faudra des joueurs comme les anciens de calmer les jeunes et voilà, de faire notre match.
Beaucoup de qualité, beaucoup de solidarité. On s'est beaucoup parlé pour, voilà, fixer les derniers réglages, comment on allait aborder ce match. On est prêt pour la guerre, comme on dit. Les staffs techniques de toutes les sélections regardent les vidéos des adversaires, donc ça fait partie du jeu, à nous de savoir les contrer. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant toute la semaine, de bien préparer ce match pour être prêt tactiquement pour gagner.
On s'est très bien préparé pour ce match face à la Jamaïque. On sait ce qu'on a à faire et j'ai confiance en mes partenaires. Je pense que on est armé pour aller défier cette équipe des Reggae Boys. Bah nous, on va s'appuyer sur nos forces, à savoir une bonne assise défensive et après devant être tranchant et jouer tous les coups à fond. Bah pour le moment, on n'y pense pas trop. Voilà, on a un match à jouer. On sait que quoi qu'il arrive, le match sera difficile. Ça sera pas une partie de plaisir, mais voilà, on sera prêt et on va y aller avec nos armes. Bon. Non, à titre personnel, j'y pense pas. Moi, ce qui m'importe à l'heure actuelle, c'est qualifier la République démocratique du Congo au prochain mondial.
Et cette rencontre au RDC Jamaïque suscite une ferveur assez particulière. Rendons-nous dans une fan zone de Kinshasa, c'est-à-dire un endroit aménagé où le public peut venir suivre ce match. Dites-nous, Vanessa Kongolo, où êtes-vous exactement et quelle est l'ambiance qui y règne?
M'appelle Mpongo Massimangu, ici à la place royale où je me retrouve en ce moment. Les travaux sont en cours pour l'érection de l'écran géant qui permettra à ceux qui vont se déplacer pour suivre le match entre la RDC et la Jamaïque. Et tout autour, les commerces se sont créés, les jeunes garçons et filles vendent des effigies de la RDC. Il y en a qui vendent des drapelets et quelques insignes aux couleurs nationales. Sur la route, on aperçoit aussi quelques taxis avec devant des drapeaux de la RDC. Il y a également des jeunes qui sont habillés en varèse, certains qui sont couverts du drapeau de la RDC. Et on sent que l'ambiance est totale et la détermination aussi. Mais il faudra dire que ce match qui va opposer à 22h RD Kinshasa, la RDC à la Jamaïque sera beaucoup suivi par tous les Congolais qui attendent une qualification à la phase finale de la Coupe du Monde, 52 ans après la dernière participation. Depuis la place royale, Vanessa Kongolo, Radio Okapi.
Merci Vanessa et bonne chance au Léopard. Nous parlons sécurité à présent au Nord Kivu. Des combats violents opposent depuis deux jours des rebelles de l'FC M23 à des groupes armés Wazalendo dans plusieurs localités du sud du territoire de Lubero. Ce mardi matin, des affrontements se poursuivaient alors que l'FC M23 aurait stoppé le retrait partiel de certaines troupes précédemment observées dans la zone. Des détails avec Martial Papimukeba.
Les premiers combats ont éclaté hier lundi vers 5h du matin dans les villages de Kalongi et Lubango, situés à environ 30 km du chef-lieu de Lubero. Selon des sources locales et sécuritaires, les forces de l'AFC M23 ont attaqué les Wazalendo du mouvement des résistants des patriotes congolais MRPC récemment installés dans ces villages après les retraits des rebelles quelques jours plus tôt. Ces affrontements ont provoqué les déplacements des populations et la zone aurait été réoccupé par l'AFC M23. Ce mardi matin, de nouveaux combats ont éclaté à Katambi, Kirikiri et Bianze, où le Wazalendo tenta de se redéployer, ont rencontré la résistance de l'AFC M23. Selon plusieurs sources locales et sécuritaires, l'AFC M23 aurait stoppé son retrait dans certaines localités et tenterait même de reconquérir des villages abandonnés sans combat il y a une dizaine de jours au sud de Lubero. Les responsables des FRDC contactés ont refusé de commenter la situation. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Pendant ce temps, l'urgence humanitaire s'aggrave dans le territoire de Bafwasende, province de la Tchopo. Plus de 7000 personnes y ont fui les exactions des rebelles ADF à Badengaïdo et dans les villages voisins vivent aujourd'hui dans une précarité totale. Faute de camps officiels, ces déplacés s'entassent dans des familles d'accueil ou dans des églises locales privées de ressources essentielles. Face à cette situation, la société civile appelle à une intervention humanitaire immédiate. Elle demande au gouvernement de renforcer la sécurité dans la zone. Philemon Tango, acteur de la société civile locale, s'exprime ici au micro de Jacques Mkonkole.
Il y a la population qui a fui depuis Mouchacha, Mianya, Fourbapasten. Il y en a aussi qui ont quitté 51, 25 Fourbapasten. Plusieurs centaines d'arrivées. Il y a des femmes et des enfants. Il y avait une apparition de Seija à Bakoubi, 60 de kilomètres, territoire de Bafasten, secteur de Bakundum. On les a vus dans un village nommé Bembel, là où on avait tué Manou qui était le rebelle. La sécurité en place ont envoyé des militaires à cet endroit-là. Ce sont les ADF. À Vadengaïdo, il y avait un groupe des Ougandais et la FARDC qui étaient ensemble pour Mouchacha. Ces rebelles sont délogés. Ce que nous demandons à notre gouvernement provincial ainsi que l'Assemblée provinciale et la sécurité provinciale, de venir tout d'abord voir la population de Bafassende qui est proche de Mambasa afin de recueillir certains éléments de ce que ces gens-là ont fait. Il n'y a pas beaucoup de militaires, la police aussi n'en parle pas pour sécuriser un peu les chefs-pouliers du territoire ainsi que là où on a vu irruption de ces gens-là.
Sécurité encore, la mise en déroute par les FARDC du groupe armé dirigé par le général autoproclamé Ami Sissi Sawa alias Monswahili suscite des réactions dans le territoire de Chabunda. Certaines organisations de la société civile estiment que cette opération de l'armée contribue à la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du Sud Kivu, longtemps sous l'emprise des groupes armés. D'autres voix encouragent les FARDC à intensifier les opérations de traque contre les groupes illégaux qui continuent d'agir impunément à Chabunda et dans d'autres territoires de la province. Jean Kassami nous en dit plus.
L'activisme du général autoproclamé Ami Sissi Sawa et ses compagnons d'armes appartient désormais au passé d'après les porte-parole des FARDC du secteur opérationnel Sukola de Nord-Sud Kivu.
Les FARDC du secteur opérationnel ont procédé professionnellement à la traque d'une association de malfaiteurs qui se font passer à tort pour Wazalendo, sous commandement direct de M. Ami Sissi Sawa alias Mouswahili.
Le ministre provincial de la justice Mayani Foster, avec la délégation qu'il conduisait dernièrement à Chabunda pour une mission officielle, garde encore à l'esprit les séquelles leur infligées par ce groupe.
Quand nous on annonçait notre arrivée à Chabunda, il a commencé à passer à la radio et faire des audios au téléphone pour dire qu'il va empêcher notre arrivée à Chabunda.
Les habitants du territoire de Chabunda se disent satisfaits du démantèlement de ce pseudo-groupe Wazalendo.
Il créait déjà une désolation au sein de cette population. En tout cas, c'est un offre de soulagement pour cette population.
Cependant, tout le monde n'est pas unanime sur l'efficacité de la mesure et souhaite que la traque puisse s'étendre sur d'autres groupes illégaux dans les territoires de Chabunda et partout ailleurs où des délinquants endossent la casquette Wazalendo. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Affaire des violences à l'hôpital de Kinkole, après une deuxième audience au cours de laquelle ont comparu le médecin directeur de l'hôpital de référence de Kinkole, plusieurs médecins, ainsi que deux témoins, une patiente présente sur les lieux et la grand-mère de la victime. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Kinkole, a décidé de renvoyer l'affaire à demain, mercredi 1er avril. Le juge président a précisé que cette prochaine audience marquera également l'ouverture des plaidoiries. À cette occasion, comparaîtra Dorcas Soraya Moulima, victime des violences physiques et verbales reprochées au médecin David Balanga Anaï. De son côté, l'un des avocats du médecin mis en cause estime que le portrait criminel dressé contre leur client est exagéré. On écoute Maître Joël Kadé Ndanga dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Du moins aujourd'hui, le tribunal de la rue a été convaincu que le portrait criminel présenté comme un criminel, un médecin violent, vous avez vu que ça a été lavé. C'est un homme de Dieu, sincérité de Dieu, qui a étudié dans les meilleures écoles, notamment Collège Saint-Louis de Kananga, et c'est parmi les médecins qui ont réussi à sauver les vies durant la période de Kamuina Sapu. C'était parmi ceux qui étaient restés à l'hôpital pour sauver les vies. C'est un sauveur, c'est un héros qui a été mal présenté. Et aujourd'hui, vous l'avez vu s'effondre en larmes. Pourquoi? Parce que lui, au lieu d'attendre les acclamations pour avoir sauvé deux vies, la vie du bébé et la vie de cette dame, elle a été chassée d'un hôpital parce qu'elle ne collaborait. Deux médecins, elle a giflé. Le premier médecin, il lui a asperger le sang sur son corps. Et en conséquence, c'est lui qui vient en troisième position. C'est le sauveur. Nous avons confiance à la justice de notre pays.
Au Kasaï oriental, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, la société EG Group, œuvrant dans le Lualaba, a organisé hier lundi la première édition du concours de plan d'affaires dans l'amphithéâtre de l'université officielle de Mbushimai. Une centaine de projets ont été soumis, mais seuls quatre ont retenu l'attention du jury. Explication avec Estanda à la finale.
Les lauréates, toutes jeunes entrepreneurs, ont reçu des subventions allant de 1 000 à 4 000 dollars pour développer leurs activités dans la pâtisserie, l'élevage de poulets de chair et la vente d'œufs. D'après Shanti Chela, fondatrice de la société EG Group, l'objectif poursuivi est d'apporter un coup de main à la jeune fille.
Venue en Boujimaï pour booster la femme entrepreneur, aider cette femme qui entreprend déjà avec de soutien financier pour qu'elle aille encore plus loin, qu'elle n'attende pas la relance de la MIBA, elle doit entreprendre.
Parmi les bénéficiaires, Fidèle Baloa, active dans la pâtisserie, a exprimé sa satisfaction.
Mon projet en secteur des pâtisseries, je compte aussi élargir mon projet engager les jeunes filles et les jeunes gens et élargir de points de vente pour notre développement.
Au-delà de l'appui financier, EG Group prévoit également une formation en entrepreneuriat pour les lauréates. Chantichela.
On ne va seulement pas se limiter à leur donner des subventions, mais alors elles seront formées dans l'entrepreneuriat. Vous avez vu tout à l'heure, notre slogan c'est « Apprendre, entreprendre et inspirer ».
Ce concours marque une étape importante dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Esther Nalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a prêté serment hier lundi pour un troisième mandat. Cela a eu lieu lors d'une grande cérémonie d'investiture à Bangui. Le président sortant avait été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 28 décembre avec près de 80% de voix. Il débute un mandat de 7 ans contre 5 ans pour ses deux précédents mandats. Le Ghana a annoncé hier soir la fin immédiate de sa collaboration avec le sélectionneur Otto Addo à seulement 2 mois de la Coupe du Monde de football 2026. Cette décision fait suite à une série de résultats décevants marqués notamment par 2 défaites récentes en matchs amicaux face à l'Autriche et à l'Allemagne.
L'invité.
Il s'agit de Mado Ondoa, actrice socio-politique. Elle encourage le gouvernement par l'intermédiaire du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant à mettre en place des programmes favorisant l'indépendance économique des femmes, notamment à travers l'entrepreneuriat et l'accès au crédit. Elle souligne également la nécessité de renforcer les politiques publiques en faveur des femmes sur l'ensemble du pays. Mado Ondoa s'entretient avec Blaise Ondongala.
Bonjour Madame Mado Ndoa.
Bonjour Monsieur le journaliste.
À la clôture du mois de mars, mois dédié à la femme, vous avez produit un dépliant sur les ministères déjà Famille et Enfants. Qu'est-ce que nous pouvons retenir globalement de ces documents?
Ce dépliant ici, nous voulons démontrer à la femme congolaise un rôle devrait jouer le ministère déjà. Nous avons démontré le rôle stratégique qui devait jouer le ministère déjà, les attentes que la population, la femme congolaise, attendait du ministère déjà Famille et de l'Enfant. Nous voulons que les mamas sachent qu'au niveau du ministère déjà, il y a plusieurs directions qui travaillent pour elles. Les mamas ne savent pas, lorsqu'ils ont des problèmes, ils doivent se référer au ministère du genre. Nous voulons, à travers ces petits documents, vulgariser au moins les services qui devaient vraiment apporter les ministères du genre au niveau de la femme. Il faut que la femme sache que nous avons un ministère. Lorsqu'elle a un problème, ils doivent se référer à ces ministères-là. Il y a tellement beaucoup de violences qui se font au niveau de la femme congolaise. Mais la femme ne savait pas où commencer. Il y a des femmes qui vont voir des ONG et pourtant le ministère est là. Le ministère pouvait les accompagner, donner même des avocats pour que la femme soit accompagnée. Mais la femme n'arrive pas parce que à cause des moyens, elle ne sait pas comment atteindre les avocats. Mais le ministère du genre est là, il devait accompagner les mamans des victimes de violences conjugales, des victimes de violences sexuelles.
Alors, qu'est-ce qui explique votre démarche?
Nous voulons sentir l'impact du ministère du genre au niveau de la population. Nous voulons que le ministère du genre puisse vulgariser, par exemple, le numéro vert. Lorsque la femme a un problème, ils peuvent toutefois appeler ce numéro vert-là que voilà, j'ai un problème. Il y a même des filles qui sont violentées même au niveau des écoles. Ils ne savent pas quoi faire. Nous voulons sentir vraiment l'impact du ministère du genre au niveau de la population, dans la défense des droits de la femme, droits des enfants et la famille. Mais le ministère du genre, là, n'est pas seulement le mois de mars, non. C'est comme si ça devait quelque chose des femmes qui sont dans des postes élevés, tout ça. Et les mamans maraîchères, les mamans bipolaires, il ne sentit pas qu'est-ce que le ministère du genre fait. Lorsque nous parlons au ministère du genre Famille de la Femme, ça englobe l'ensemble de la population. Nous voyons les genres, l'homme et la femme. Nous voyons les familles. Nous voyons la protection des enfants. Nous voyons la protection et l'accompagnement des familles. Donc c'est ce que nous attendons du ministère du genre.
Que préconisez-vous pour booster la politique du genre Famille et Enfants à travers les pays?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La majorité qui sont dans l'informel, ce sont des femmes. Ces femmes-là, comment les encadrer pour
voulons qu'il y ait un accompagnement des familles. Parce que la famille, c'est la cellule de base.
En cette période où le pays fait face à la crise sécuritaire, quelle peut être la mission spéciale de la femme pour restaurer la sécurité?
La restauration de la sécurité, ça commence d'abord au niveau de la famille. Vous savez, la famille, c'est la cellule de base. Lorsque la famille est bien protégée, vous voyez, il y a les problèmes de kidnapping, il y a les problèmes de kulouna. Lorsqu'il y a une famille qui ne savent pas protéger leurs enfants, les enfants sont dans la rue. Ça pose un problème. Il faut qu'il y ait un accompagnement du gouvernement à travers le ministère du genre, à responsabiliser les parents sur les droits parentaux. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à prendre les responsabilités. Vous allez voir des mineurs dans la rue à près de vendre des lots. Le président de la République a mis les centres de Kanyamakasi, c'est là où on est tenté de former les enfants. Mais ça ne suffit pas. Il faut que la famille puisse jouer ce grand rôle-là. Et c'est à travers le ministère déjà qui doivent suivre tout ça. Un enfant mineur ne peut pas commencer à nourrir sa famille. Non, c'est dans la responsabilité des parents. Lorsque vous mettez au monde, vous devez avoir cette capacité de pouvoir élever les enfants. Nous voulons sentir que nous avons un ministère qui s'occupe de la représentativité de la femme, qui s'occupe des droits des enfants, qui s'occupe de la protection des familles.
Madame Mado Ndoa, nous vous disons merci.
J'ai dit et je vous remercie.
Madame Mado Ndoa, actrice aux sociaux, aux politiques. Voilà qui met fin à ce journal préparé de main de maître par Alain Irung et Élisée Chikota Chivuita avec un grand apport de l'équipe de sport. La mise en onde dessinée est Jean-Claude Ossiala. À vous qui venez de nous suivre, grand merci et bonne chance au Léopard.